France, bonjour à tous, pour lancer la semaine académique des mathématiques dans l'Académie de Poitiers. Je me suis tourné très naturellement vers un partenaire privilégié qui est l'Espace Manès France. Merci Didier Moreau de nous accueillir. Vous avez vu aussi l'exposition « Comment tu comptes ?» réalisée avec l'Association des professeurs de mathématiques de Poitiers. Et puis, nous avons demandé à Robert Cabanne, inspecteur général du groupe de mathématiques, de réaliser une conférence. Et il nous a proposé plusieurs sujets. Et en fait, on a retenu celui d'art et design. En particulier aussi, je crois, au niveau académique, pour valoriser ce qui se fait dans deux établissements, c'est Charles Coulon. je vois que vous êtes présent. Et puis à Perrochon aussi, à Parthenay, mais ils ne sont pas présents là. Voilà, donc je ne m'attarde pas plus longtemps. Merci Didier de l'accueil. Je te passe la parole.
Donc bienvenue à l'Espace Mendès France. Alors c'est une semaine particulière, c'est la semaine des maths, c'est la semaine du cerveau et c'est la semaine des applications numériques. Voilà, donc l'État fait feu de tout bois. Donc vous êtes les bienvenus. On a un partenariat historique grâce à Dominique Gault depuis 1995 ou 1996 entre l'Espace Mendès France et le réseau de mathématiciens que vous êtes. La conférence de soir va être enregistrée. Elle sera en podcast sur le site internet de l'Espace Mendès France avec votre permission, qui permettra aux collègues, à vos collègues qui n'ont pas pu venir, vu la rapidité des choses, de pouvoir éventuellement se référer à tout ça. Donc on va le mettre sur le site internet de l'Espace Mendès France pour continuer ce travail de diffusion. Voilà, donc merci François.
Oui, merci. Bonjour, merci de m'accueillir dans ce lieu que je ne connaissais pas, que je découvre. Donc là, c'est une occasion parfaite. Je vous préviens, ça sera sans prétention. Quant à l'enregistrement, je ne suis pas sûr qu'il sera très utile parce que vous allez voir essentiellement des images. Donc dans l'enregistrement, il n'y aura pas d'images. Mais d'un autre côté, ça tombe bien parce que ça ne fait pas de droit de reproduction. En revanche...
Vous faites des choses sans droit.
Voilà, les images, je peux vous les montrer, mais je n'aurai pas forcément tous les droits de reproduction associés pour les divulguer au loin. Voilà, donc si vous réécoutez ce propos sous forme de podcast, ayez bien les images en tête, parce que sans les images, ça n'aura pas beaucoup de sens. Alors effectivement, je me suis dit que s'il fallait un peu ouvrir cette semaine des mathématiques par une thématique particulière... Il fallait donner envie, il fallait montrer où il y a des mathématiques, à quoi ça peut servir ou ne pas servir, et se dégager un peu des aspects utilitaristes qui sont notre quotidien. Soit les mathématiques, ça sert à enseigner, ça sert à faire des examens, ça sert accessoirement à faire des tas de sciences, des techniques, des technologies... Ça peut servir à faire de l'assurance, de la finance, ça peut servir à beaucoup de choses. Ce soir, je vais vous montrer des mathématiques qui servent à pas grand-chose. Voilà. Donc, permettez que ce soit un propos plutôt léger, invitant à la rêverie, à la contemplation, et surtout invitant à observer. C'est pour ça que vous allez voir des œuvres qui sont... parfois identifiées comme des œuvres de design ou des œuvres d'art ou d'artisanat. Et j'ai dit mon propos de ce soir tout particulièrement à l'ensemble des professeurs et des élèves de ces deux établissements qui essayent de faire vivre cette filière dite sciences et technologies du design et des arts appliqués qui fait partie de la réforme du lycée avec vraiment l'idée d'apporter une formation pertinente de haut niveau et qui mène nos jeunes vers un avenir créatif. Alors voilà, bon, je vais essayer de vous faire un propos créatif et pas du tout sérieux. Voilà, donc je me suis intéressé à ces questions sur mathématiques, art et design, en fait, à partir de plusieurs origines. L'une, c'est que j'ai toujours beaucoup aimé fréquenter les œuvres d'art, donc je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc ça ne me quittera pas. Et l'autre, c'est qu'effectivement, j'ai été associé à l'écriture des programmes de mathématiques pour la série STD2A, puis aux ressources pédagogiques associées, ce qui m'a conduit à regarder ce qu'on avait à dire du côté de la confrontation des mathématiques et du design. Nous nous sommes aperçus en cheminant que c'était vraiment très riche, donc je vais vous présenter quelques idées extraites de ces parcours, des idées que j'espère fécondes et qui n'épuisent absolument pas le sujet. Je vous présenterai un peu trois ordres de remarques, de situations, que j'ai tenté de regrouper avec des titres intercalaires, mais ils valent ce qu'ils valent. Et je vais commencer par des mathématiques assez classiques. Les mathématiques s'occupent depuis que l'humanité en fait des rapports entre les grandeurs. Et donc il va y avoir des rapports, des proportions. Et depuis que l'on fait de la géométrie, eh bien, il y a des courbes qui commencent essentiellement par les cercles. Et donc, ça va être une histoire de rapports qui tombent juste ou qui ne tombent pas juste. Bien, je vais commencer par cette reproduction d'une voiture qui a été produite assez récemment. Donc ça, c'est une œuvre du design. Vous pouvez appeler ça une œuvre d'art si vous voulez, mais avant tout, c'est un objet du design. Alors, le designer est un créateur qui est soumis à de très nombreuses contraintes. Il doit en effet produire des objets. Ces objets doivent être réalisables, matériellement réalisables. Ils doivent aussi être vendables. Ils doivent aussi être attirants. On doit les juger plus ou moins beaux, ou particuliers, ou singuliers. Et enfin, ces objets doivent permettre, eh bien, tout simplement, un gain, un bénéfice. Et donc, il faut que la production se fasse à un coût raisonnable. Toutes ces contraintes s'imposent. J'en ai négligé une qui n'est pas tout à fait de ma partie, ce sont les matériaux. Mais ils existent. Et effectivement, sans matériaux, sans matière première, il n'y a pas de création non plus. Donc, le designer pense à tout ça et il se demande ce qu'il va réaliser. Alors cette voiture est assez curieuse, c'est une reprise de la traditionnelle coccinelle qui a été nommée New Beetle, avec des espèces de connotations qui rappellent la coccinelle traditionnelle. Et c'est très intéressant parce que quand on se met devant une reproduction d'une œuvre de design, la première chose à faire c'est regarder, observer. Avant de faire un discours plus intellectuel, plus construit, il faut prendre le temps d'observer. Et ce qui attire le regard immédiatement, c'est la présence des rondeurs de toutes sortes sur ce prototype de voiture et une quasi-symétrie entre l'avant et l'arrière. C'est assez voulu. Pour le reste, l'apparence générale de la voiture tranche avec les engins que nous rencontrons souvent dans la rue. Là, il s'agit de la dimension singulière de l'objet qui va s'appuyer, vous allez le constater, sur le recours à des formes simples, voulu aussi pour évoquer un objet sortant de la nature, fait avec des idées simples et destiné à ceux qui précisément souhaitent un petit peu se singulariser. Eh bien, de quoi cet objet est-il fait ? Eh bien, de rondeur. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est enfermer cette reproduction dans des cercles et des ellipses. Alors, ce qui saute à l'œil, c'est évidemment les deux cercles bleus qui correspondent à ces passages de roues, les ailes, et qui sont la connotation qui évoque la coccinelle d'autrefois. Mais sur la coccinelle d'autrefois, ce n'était pas vraiment rond. Donc, le designer a préféré insister sur la forme ronde. De fait, ces deux ronds bleus ne sont pas tout à fait ronds, ils sont un peu elliptiques, mais on va négliger ce détail pour l'instant. La grande ellipse verte, c'est une ellipse. Donc, pour ceux qui n'auraient pas forcément ça en tête, l'ellipse, c'est jamais qu'un cercle un peu aplati. Donc, vous prenez un cercle, vous tassez, voilà, ben, ça vous fait une ellipse. Donc, tasser, c'est-à-dire vous réduisez l'échelle. Voilà, vous réduisez l'échelle verticale et voilà, ça vous fait une ellipse. Et j'ai tracé l'ellipse de façon tout à fait approximative, sans recherche d'une quelconque exactitude. La suite montrera pourquoi. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y en a bien d'autres dans ce modèle. C'est-à-dire, si vous cherchez à tracer, vous tracez de plus en plus. Alors, j'ai mis en rouge. Oui. Des cercles ou des ellipses, selon, qui s'appuient sur le haut des fenêtres, sur les montants, sur la ligne générale. Et vous voyez que ces lignes, ces courbes, suivent de manière très précise le design de la voiture. Et donc, on imagine que le designer s'est appuyé sur ces formes géométriques simples pour créer une ambiance. Mais là, tout de suite, vous devriez avoir un certain esprit de critique face à mon propos. Parce qu'en fin de compte, je suis en train d'essayer de vous vendre un concept. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Parce que là, je vous mens. Je vous dis que vous avez des cercles, des ellipses. Mais c'est quand même assez illusoire, parce qu'en fin de compte, cette voiture est volumique. Et cette photo est en réalité une perspective. Et donc, mes tracés de couleurs sont tous plats par rapport à un objet qui ne l'est pas du tout. Et finalement, dans la vraie forme de cette voiture, il y a des courbes bien plus compliquées que cela, dont l'apparence est celle que vous voyez. En somme, ces ellipses, ces cercles sont plus une apparence voulue pour inspirer le futur consommateur que la réalité de la construction qui va obéir à d'autres contraintes. Ces contraintes, vous les connaissez. Dans cette voiture, il va falloir mettre un habitacle, un moteur, des roues, un châssis. Il va falloir aussi mettre des éléments de sécurité. Et toutes ces questions sont tout à fait éliminées parce que le design essaye de s'imposer. Alors, le deuxième élément tout à fait étonnant, c'est les proportions. Je reprends l'ellipse que j'ai montré au début et j'en prends la longueur, donc grand L, et la hauteur complète. Alors évidemment, ça plonge dans le sous-sol en quelque sorte, le H. Ça provient du fait que cette ellipse couvre une partie qui n'est pas réellement utilisée. Toujours est-il que le rapport entre cette longueur et cette hauteur fait à peu près 1,6. Alors le designer s'est expliqué là-dessus après. Il a dit qu'il avait voulu recourir à des proportions bien connues afin que l'objet détonne dans sa singularité tout en ayant un petit côté légèrement classique, un peu rétro. Si on regarde la même voiture par-dessus, comme la plupart des voitures, c'est un objet beaucoup plus allongé que large. Et le rapport des proportions de ce rectangle qui contient à peu de choses près la voiture sans les pare-chocs fait à peu près 2,25. Bon, c'est très approximatif, là encore, c'est tout aussi mensonger que le reste, puisque c'est une vue plate pour un objet volumique, vous vous souvenez. Eh bien, ces proportions qui viennent d'être rencontrées avec leur approximation, ne sont effectivement pas si récentes que ça, elles étaient très en usage chez les Grecs. Donc si vous regardez la façade du Parthénon, elle a à peu près les mêmes formes que vous avez eues auparavant. Excepté l'ellipse, ce qui s'explique historiquement, les Grecs connaissaient les ellipses, mais s'en servaient pas beaucoup. Ça les a moyennement inspirés jusqu'à Apollonius, c'est-à-dire... c'est à peu près vers le 2e siècle. Donc la construction du Parthénon, c'est 6 à 7 siècles avant, à une époque où la notion d'ellipse n'est pas encore du tout au point. Néanmoins, les proportions, si. Et donc là, je me suis basé sur une reconstruction graphique de la façade du Parthénon telle que ça pouvait être à l'époque. Donc voilà, c'est la tête à peu près. Bon, ça a été très très détruit, ça, c'est les vicissitudes de l'histoire, il faut accepter. Et le Parthénon est à peu de choses près basé sur deux rectangles emboîtés. L'un qui inclut les colonnes et la frise qui va juste au-dessus, et puis l'autre un peu plus grand qui contient le triangle qui chapeaute tout ça. Et effectivement, les proportions de ces deux rectangles sont à peu près les mêmes. Donc en gros, 1,6 pour le rectangle le plus grand et 2,2 pour le rectangle le plus allongé. Donc ça, c'est ce qui était en usage chez les Grecs et très à la mode chez eux. Les autres peuples s'en sont pas servis très vite. Ils appelaient ça donc les proportions dorées, les proportions parfaites. Et le 2,2, c'est proche du nombre racine de 5, hein, tandis que le 1,6 est proche de ce qu'on appelle le nombre d'or, racine de 5 moins 1 sur 2. Alors, ma grande surprise, c'est que j'ai marché sur le nombre d'or en entrant ici. Vous avez marché dessus aussi, vous ne l'avez pas vu ? C'est la spirale, là, juste à l'entrée. Et donc, sans le savoir, vous avez marché sur ma conférence, donc tout était dit, et vous pouviez repartir. L'histoire est assez curieuse. On rattache l'intérêt pour ces nombres au personnage de Pythagore dont on ne sait rien. Il n'y a aucun témoignage historique de la vie de Pythagore, uniquement des légendes. Il est vraisemblable qu'il y a eu quelqu'un qui portait ce nom, mais c'était peut-être plusieurs personnes et pas forcément une seule. C'était sans doute un groupe de philosophes. Et donc nous sommes très dans l'embarras pour arriver à dire qui était Pythagore. On connaît plus de choses sur les mathématiciens qu'on suivit, notamment Thalès, mais Pythagore, c'est pas évident. Donc Pythagore avait découvert que le pentagone était un objet véritablement merveilleux, si bien qu'il mettait des pentagones partout. C'est le même Pythagore ou ses avatars ou l'équipe, le labo de recherche de Pythagore, en quelque sorte, qui se sont aperçus que si le nombre que je vais vous montrer, le racine de 5, se construit bien, eh bien, c'est un nombre un peu bizarre, parce que ce n'est pas une proportion qui tombe juste. Et ça, ça les a beaucoup irrités. Alors, avant qu'on en parle davantage, ça se trouve en Grèce, ailleurs, dans un endroit assez étonnant, qui est le temple, qui est le théâtre d'Hippidore. Dont voici une photo et vu d'en haut ça ressemble à ça, donc jusque là c'est assez commun. Je dis bon ben voilà, il y a des gradins, on met du public, on assied tout le monde et le spectacle peut commencer. Là où ça devient un peu spécial, c'est quand on compte. Donc si vous vous regardez tous ces rayons, vous allez découvrir avec tranquillité qu'il y a une sorte d'horizontale et une verticale, mais ensuite chaque cadran est coupé en 5. Ce qui n'est pas une des choses les plus faciles à faire. C'est-à-dire que... Voilà. Donc là, sur... l'angle de ces gradins, vous avez 36 degrés, et donc c'est l'angle moitié, là, il fait 18 degrés. Alors ça, c'est pas trop commun, parce que c'est beaucoup... Franchement, ils auraient eu la vie beaucoup plus simple en coupant en 2, puis en 8, voilà, s'il le fallait, c'était bien plus simple à réaliser. Pourquoi donc les concepteurs de... cet espace de représentation, se sont-ils cassés la tête pour couper leur cadran en 5? Alors, j'ai rajouté par-dessus un décagone, hein, donc vous avez un polygone à 10 côtés, et effectivement, vous voyez que ça tombe à peu près. Bon, c'est approximatif, mais c'est ça l'idée. Donc, le point commun, c'est qu'effectivement, la fréquentation du pentagone était à cette époque jugée proche de la fréquentation des divinités, donc particulièrement favorable. Je me demande vraiment comment ils ont fait pour construire ça sur le terrain. Parce que c'est gentil de construire un pentagone avec une règle et un compas, je vais vous en parler tout à l'heure, mais je vois mal le compas qui dessine tout ça à flanc de colline. Et donc il y a là un problème d'arpentage qui est assez complexe. Il y a eu probablement une esquisse faite sur le sol, c'est-à-dire ils ont dû dessiner un grand pentagone là-dedans. Puis le pentagone étant fait, je pense qu'ils l'auront subdivisé pour faire 10 puis 20 côtés. ça leur aura donné des directions à suivre, et après ça, il fallait monter les gradins. Et donc, je pense que le travail de construction était quand même assez compliqué. Bon, et donc, la grande découverte, alors il y aura un poil de mathématiques, j'ai promis que j'en ferai pas, mais enfin quand même, je ne peux pas m'empêcher, je suis désolé. Là aussi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et la découverte de Pythagore ou de ses associés, c'est que définitivement, c'est un rapport qui tombe pas tout à fait juste. Et donc, alors là aussi, une grande énigme. Là, je vous l'écris avec les notations modernes. Donc, je vous dis, si le nombre racine de 5 était un nombre rationnel, ce serait une fraction A sur B. Donc, c'est vite écrit, on multiplie par B. Et puis, le nombre rho, en hommage donc au grec, je l'appelle rho comme la lettre rho, rho fois B égale A. Ça paraît tout simple. Arrêtez-vous un instant. Vous avez uniquement le langage de la géométrie pour exprimer ça. Vous n'avez pas le droit à la moindre lettre, pas le droit au symbole, vous ne savez pas ce que c'est que le signe égal. Et donc, rédiger tout ça dans un langage géométrique est quand même passablement énervant. Bon, toujours est-il qu'on remultiplie un petit peu, on prend les mêmes et on met tout au carré. Et on les remultiplie et puis tous par eux-mêmes. Donc, vous avez 5 fois B égale A fois A. Et donc, comme il y a du 5 ben, à gauche, il faut bien trouver du 5 à droite. Vous trouvez du 5 à droite dans le nombre A. Donc A est divisible par 5. Mais B, lui, n'est pas divisible par 5, sinon votre fraction n'est pas réduite. Si bien que A est divisible par 5, donc A carré est divisible par 25. Alors, manque de chance, vous avez 25 à droite, mais vous n'avez pas 25 à gauche. Alors certes, la démonstration fonctionne, mais outre le fait que l'irrationalité du nombre est prouvée, elle montre surtout qu'à cette époque, on savait déjà faire un raisonnement par l'absurde. Ce qui est quand même pas rien. Et à mon avis, c'est la première conquête du groupe de Pythagore. Ça a été de démontrer un résultat en faisant une hypothèse temporaire pour la réfuter juste après. Donc en ce point, je pense qu'effectivement, c'est une grande conquête de l'humanité. Alors, ils ont dû renoncer à avoir des mesures, et renonçant aux mesures, ils ont fait de la construction. Bon, alors la construction fonctionne relativement bien, et c'est grâce à ce brave Pythagore qui, effectivement, s'est dit que les deux côtés, là, vous voyez, ils doivent s'ajouter. Alors ça, c'est pour ses souvenirs de collège. Hein. Donc là, vous avez une longueur 1,5, puis là, vous avez une longueur 1, et donc... on va ajouter par 1 et 1,5, on ajoute 1,5 au carré et 1 au carré. Donc Pythagore a trouvé qu'il fallait ajouter les carrés. Donc c'est là, si bien que cette longueur-là, elle fait la racine de la somme des carrés, c'est-à-dire la moitié de racine de 5. Là, on n'est pas loin de tenir le nombre racine de 5. Alors après ça, il y a un petit peu plus de travail pour atteindre le pentagone, parce qu'il faut se convaincre du fait qu'on a besoin de racine de 5 moins 1 sur 4. Donc il y a un petit bricolage de construction qui va consister à retirer 1 et puis diviser par 2. Bon, alors c'est expliqué dans cette construction qui n'est pas très difficile. Une fois qu'on tient un sommet du pentagone, là, le B là-haut, eh ben, on reporte à partir du A, puis on a tous les autres. Donc tout ça a été mis au point. Je ne suis pas convaincu que cette construction était celle de Pythagore. Il est vraisemblable qu'ils avaient des procédés plus compliqués. Celle-ci a été inventée quelque temps après. Tout ça nous a été laissé par Euclide et ses successeurs. On n'a pas grand-chose de ce qui précède parce qu'on n'écrivait pas. Enfin si, mais sur le sable. Donc on n'a pas de traces. Si bien que ils étaient très contents d'avoir mis du racine de 5 partout, mais alors ça devenait une obsession. Et donc depuis cette époque-là, le fameux nombre d'or, le nombre phi, le racine de 5 moins 1 sur 2, a trotté dans la tête des gens. Et c'est devenu une espèce de discours mystique qu'il fallait en mettre à tous les étages. Ce n'était pas forcément très objectif, si bien que le racine de 5 moins 1 sur 2, si on essaie de vous le vendre, ne vous sentez pas obligé de l'acheter. Si on vous propose une voiture qui contient ça comme proportion, ça me semble un peu léger comme argument de vente. D'autant plus que le design, quelquefois, c'est de l'enrobage. Alors regardons de plus près. Donc si vous regardez là sur ce passage de roue, sur cette aile, en fait le cercle, c'est le même que tout à l'heure, ben, il ne colle pas très bien. Vous voyez, ça ne s'assemble pas tout à fait comme il faut. Et ce n'est pas uniquement que mon ellipse est mal tracée, c'est que ça ne colle pas du tout. En fait, le tracé du bord de l'aile, c'est une sorte de cercle un peu carré. Vous voyez, là il y a une bosse. Donc, en réalité, le designer s'est éloigné du concept de l'ellipse parce qu'il avait des raisons pour ça. Ces raisons pour s'en éloigner peuvent être assez complexes. Peut-être que le moteur est un peu gros. Peut-être qu'il faut aussi assurer la solidité de l'assemblage. Et donc, si on fait bien rond, ben, l'assemblage ne sera pas de résistance maximum. Ou toute autre raison. Peut-être enfin que le logiciel du designer ne s'intéresse pas aux ellipses et dessine d'autres choses dont je vais parler après. Parce qu'effectivement, le temps a bien filé depuis les Grecs et maintenant on se sert un peu moins des ellipses et on se sert davantage d'autres courbes. Donc je pense que cette bosse trahit le fait qu'en réalité, le designer nous embobine avec ses ellipses, ses proportions et ses cercles. Et en réalité, il travaille avec des courbes plus souple, qui lui permettent d'arranger tous les éléments intérieurs d'une manière efficace. Alors on va voir de quoi il s'agit, sans rentrer dans les détails mathématiques, mais je vais essayer de lever un peu le coin du voile. Ah. Alors changement de décor, je quitte la Grèce et je vais chez moi à Bordeaux. C'est pas très facile à voir, c'est à la Bourse du Travail de Bordeaux. Il faut profiter des journées du patrimoine. Hein. En dehors de ça, il n'y a pas tellement moyen. Donc c'est un endroit où il y a de très beaux fers forgés. C'est du design des années 30. Donc là, j'ai photographié une grille avec un élément un peu extra que je ne vais pas beaucoup commenter, mais quand même assez joli. Dans le coin, il y a une boule en verre qui reflète la lumière avec une image déformée à l'intérieur. C'est absolument magnifique, mais si je commande ça, il me faudra une demi-heure de plus. Donc, je vous inviterai plutôt à repérer une journée du patrimoine pour aller voir ça à Bordeaux. Et donc, ce fer forgé a une forme que nous pouvons juger assez esthétique. C'est assez rond, si bien que nous pouvons y voir des cercles. Alors, en effet, la forme de base ici c'est encore le cercle. C'est particulièrement net pour le cercle rouge. Là, ça, le cercle rouge il colle impeccablement à la forme en fer forgé. Dessous, le cercle bleu fait pas mal, puis il y a un tout petit cercle jaune qui joue un rôle assez important que je vais expliquer maintenant. En revanche, ben, du côté des quatre points bleus à gauche, ça ressemble pas du tout à un cercle. Alors comment est-ce que c'est fait ça ? Et bien là, on quitte le thème de l'œuvre d'art et on bascule du côté de l'artisanat. Le fer forgé est assemblé sur des cintres. Au moment où les barres sont chauffées suffisamment pour être malléables, on les fixe sur des objets ronds qui s'appellent des cintres et on impose la forme circulaire. Et pour joindre ces diverses formes circulaires, eh bien, on positionne les cintres de manière alternée et il y a une espèce de figure de jonction, c'est mes quatre points bleus, vous allez voir juste après, qui va effectivement réunir ces cercles. Si bien qu'il n'y a pas que du cercle. Alors voyons un petit peu comment l'artisan a positionné ses cintres. Alors, donc là, le cercle jaune correspond à un tout petit cintre qui permet d'attacher le bout. Donc là, on a pincé le bout de la barre sur un. C'est pas un cintre, c'est juste un rond en acier sur lequel on a mis une pince. Et puis il y a un cintre beaucoup plus grand qui est ici. Et après ça, ben, entre les deux, ben, que voulez-vous, le fer se débrouille. C'est la résistance des matériaux. Alors maintenant, si on regarde les quatre points bleus dont je vous ai parlé tout à l'heure, ben vous avez une courbe qui essaye de les assembler, cette courbe que j'ai dessinée en orange. Et cette courbe-là, eh ben, ce n'est pas l'assemblage de deux cercles, c'est une jonction entre deux cercles. Et donc là, nous sommes dans des mathématiques qui n'ont plus rien à voir avec les Grecs. Ce sont des mathématiques qui ont été inventées entre le 18e et le 19e siècle, où on a commencé, travailler sur des fonctions d'un degré plus élevé que 2. Pour l'essentiel, les Grecs ne connaissaient que du degré 2, c'est-à-dire des carrés, les carrés de Pythagore. Au 18e, on s'est aventuré beaucoup plus loin. Dès le 15e, en fait, on a commencé à faire du degré 3. Et au fur et à mesure, les mathématiciens se sont mis à utiliser des fonctions, des polynômes, ça s'appelle ainsi, qui assemblent des termes de degré beaucoup plus élevés. On a même commencé à combiner ces fonctions les unes avec les autres. On a même quitté le thème des fonctions pour avoir des courbes. Bon, on peut imaginer cette courbe orange comme une espèce de petit mouvement. Imaginez une coccinelle qui marcherait sur le fer forgé. Elle marcherait très régulièrement, votre coccinelle. Et donc, en marchant, elle avance, donc de gauche à droite, et puis elle monte. Et si bien que à chaque instant que vous surveillez sur votre chronomètre, elle a une position. Donc on appelle ça des coordonnées, un x et un y. Et suivant le temps qui passe, eh ben, le x et le y avancent. Eh bien, ce x et ce y qui dépendent du temps sont des fonctions, des polynômes d'un degré plus élevé, sans doute 3, voire plus. Et cet assemblage va permettre de créer une forme avec des contraintes. Alors les contraintes, quelles sont-elles ? Ah ben, on les voit. Alors, ben vous avez ici un pincement, parce que vous voyez, vous avez trois barres en fer qui ont été pincées ensemble, elles ont été bien assemblées, ce qui fait que là, la contrainte, c'est que ça doit partir dans une direction un peu bien précise. Bon, en mathématiques, on appelle ça une tangente. Et puis, là-bas, la contrainte, c'est le cintre. Et donc, il faut que ça colle avec le cintre qui est là-dessous. Et donc, notre contrainte s'appelle un rayon de courbure. Et donc, il faut essayer de créer une courbe qui va assembler ici une tangente et un rayon de courbure. Et puis, il y a des courbes qui font ça joliment. Alors, on en a inventé différentes sortes. Il y a des courbes qui se font à base d'assemblage de choses de degré 3. Il y a même une autre courbe qui a un nom épouvantable, qui s'appelle la clotoïde, ou spirale de cornu, et qui fonctionne avec des sinus et cosinus de fonctions plus compliquées, il y a des intégrales. Ça a été très étudié au 19e siècle et ça a servi très longtemps pour le tracé des lignes de chemin de fer, par exemple les raccordements d'autoroutes. Voilà, c'est à peu près fait comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de se casser la tête avec ça. D'ailleurs, l'artisan qui a assemblé tout ça ne s'est absolument pas posé la question. Donc je ne suis pas en train de vous dire que les mathématiques sont nécessaires pour faire la ferronnerie. Je suis juste en train de vous suggérer qu'elles sont là. Elles sont juste là et on est en train de les regarder. Voilà. Il y a des mathématiques autour de nous. De même que quand on regarde un beau pays, un paysage naturel, on ne se demande pas si ça sert à quelque chose. On le regarde, on trouve ça beau, c'est tout. Donc la forme qui est ici est révélatrice de mathématiques plus complexes, bien plus complexes que les Grecs savaient faire. C'est la mathématique des fonctions, c'est de l'analyse. Alors, petit clin d'œil, le designer est tout le temps en train d'assembler des courbes et il a tout le temps des contraintes. Donc les contraintes sont très nombreuses, ce qui oblige à avoir un stock de courbes et de fonctions aussi variées que possible. Parfois, ça frôle au délire. J'ai choisi ici une banquette due au designer Hector Guimard, le même qui avait fait les entrées de métro à Paris. Donc cette banquette est au musée d'Orsay à Paris, vous pouvez la voir là-bas. Et lui, il s'est vraiment énormément exprimé sur la courbe, c'est toute une époque. Et dans ce style décoratif, l'important c'est la courbe, et une courbe aussi peu ronde que possible. Alors si vous regardez en détail, vous allez voir qu'effectivement, vous avez ici une rondeur très plate. Là-haut aussi, c'est une rondeur très plate et soudain, qui devient très accentuée. Donc nous avons là un genre de courbe dont le rayon de courbure varie d'une manière très forte. En faisant ça, le designer crée une ambiance. Il crée une ambiance où le cercle n'a plus sa place. Pour modéliser ça, et aujourd'hui ça se fait très bien avec des logiciels, eh bien il faut aller puiser dans le stock de courbes et choisir des fonctions qui produisent ces ruptures aussi nettes, tout en respectant les contraintes. Parce que quand même, il faut que la banquette tienne debout. Il faut que sa masse soit pas trop élevée pour que ça se transporte. Et il faut que le matériau soit suffisamment solide. Si bien que le designer va explorer dans sa boîte à outils mathématiques, de temps en temps, des objets un peu exceptionnels pour créer des ambiances exceptionnelles. Et ça se voit du premier coup d'œil. Eh bien, cette banquette, si vous voulez, dans sa forme, ne ressemble pas du tout au New Beetle du début. C'est comme ça, c'est parce qu'en mathématiques, on a effectivement des objets très variés qui permettent différentes formes d'expression. Pour aller plus dans l'actualité, je vous propose de jeter un coup d'œil sur le centre Pompidou à Metz. Ça a ouvert il n'y a pas longtemps. Alors, c'est une forme assez étonnante qui a été conçue par le designer, par l'architecte, à partir de, dit-il, des canages et du chapeau chinois. Donc, certains chapeaux, des chapeaux indochinois. Enfin, il a montré un modèle de chapeau qui l'a beaucoup inspiré. Il s'est dit, je veux faire pareil. Sauf que le chapeau, lui, il est quand même assez rond. Il y a une symétrie de révolution. Là, on a de la rondeur, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et vous voyez en effet toutes ces lignes qui s'entrecroisent, qui viennent s'appuyer sur les bords dans des courbes harmonieuses. Mais ces courbes, là aussi, n'ont plus rien à voir avec les cercles et les ellipses. Et non seulement nous avons des courbes, mais nous avons une surface, la surface qui vient au-dessus. Et donc le designer va devoir s'échapper de la courbe et penser en termes de volume de surface, et une surface qui ne se raconte même plus avec des objets simples. On ne peut plus parler, là, de cônes, de cylindres, de sphères. Ce vocabulaire ne convient plus. Il n'y a même pas de vocabulaire pour dire quelle est cette forme. Cette forme est la forme mathématique qui va s'appuyer sur le truc qui est tout autour, sur le mât, avec les ouvertures, et c'est tout. C'est une espèce de forme d'équilibre qui va devoir aussi limiter les contraintes mécaniques, parce que le bâtiment doit être assez solide. Le bâtiment doit résister au vent, et puis il doit avoir un grand volume intérieur. Donc ces contraintes vont être traduites par des équations, des systèmes d'équations. Cette fois-ci, ce ne sont plus des équations comme l'équation de Pythagore, x carré égale 5. Ce sont des équations qui portent sur des fonctions, ce sont des équations dérivées partielles, et qui sont plus ou moins les mêmes que celles qui traduisent l'équilibre d'une bulle de savon. Et vous savez, les expériences avec les bulles de savon, vous plongez du fil de fer dans une solution savonneuse, vous ressortez et vous avez une jolie surface. Mais les équations qui racontent comment cette surface de savon tient sont un peu les mêmes que celles qui vont expliquer comment il faut agencer le toit pour que ça tienne bien. Et donc le designer, lui, il s'occupe de design, il dessine. Mais derrière lui, il y a une équipe d'ingénieurs qui calcule. Et pour calculer tout ça, ils ont évidemment des gros ordinateurs, ne soyons pas naïfs. Alors le design va dissimuler la technique, va dissimuler l'ordinateur. Mais ils sont quand même présents derrière. Parce que je vous défie de réaliser ça sans ordinateur. Je vais aborder une deuxième thématique. Vous allez voir à nouveau que il y a de l'exactitude, mais il y a aussi de l'inexactitude dans le design. Donc là encore, je vais essayer de vous vendre des mathématiques et essayer de vous persuader de ne pas les acheter tout de suite. Voilà, je vais commencer par ce très célèbre design qu'on trouve à l'Alhambra. Ça, c'est une photo que j'ai faite il y a 5 ou 6 ans et qui est toujours aussi fascinante. Il faut bien regarder, mais on trouve ce genre d'assemblage. Hein. Donc, il y a un mot qui désigne ces créations, ça s'appelle des éliges. C'est un artisanat traditionnel qu'on trouve aujourd'hui encore au Maroc, mais sous une forme moins extrémiste qu'à l'Alhambra. Si vous avez l'occasion d'aller là-bas, c'est un vrai régal. Voilà l'exemple d'une zélige de fabrication contemporaine du Maroc. Donc vous voyez immédiatement le principe. Nous avons là une forme répétée. Nous sommes sur une forme très rigoureuse. Vous voyez, on va diviser le cercle. Et ça vous rappelle de façon lointaine ce que je vous ai raconté à propos du théâtre d'Épidaure. On partage le cercle de façon régulière. Donc on a l'harmonie de la division régulière. Vous pouvez voir aussi ce genre de motif, et ce qui est tout à fait fascinant à l'Alhambra, c'est que le designer, qui malheureusement est anonyme, on ne sait pas qui c'est, s'est ingénié à produire tous les agencements possibles du point de vue des rotations et des symétries. Donc un théorème de mathématiques dit qu'il y en a 17 possibles. C'est-à-dire si on tient compte de la combinaison de ces opérations fondamentales qui sont... le décalage que nous appelons translation, la rotation et la symétrie, il y a 17 façons d'agencer tout ça de manière différente. Et les 17 sont effectivement produites à différents endroits de l'Alhambra. Ici, on voit très bien, précisément, cet agencement, on a une symétrie, là, bien gentille, là, verticale. On a là un autre axe de symétrie, là on a encore un troisième axe de symétrie. Et puis, bon, vous voyez comment c'est construit. En voici un autre, un peu plus compliqué. Il est plus compliqué parce qu'il est moins symétrique. Au début, on pense que c'est symétrique, mais non, pas du tout. Regardez ici, ça marche en tournant. Vous voyez, cette forme-là va devenir celle-ci en tournant. Elle a l'air, on dirait qu'il y a des axes de symétrie, mais ils ne marchent pas. Ce qui est extraordinaire ici, c'est que le designer a empêché les symétries et a décidé de ne s'en tenir qu'aux rotations pour produire un effet visuel intéressant. Et là, on tient une idée intéressante. C'est symétrique, mais pas trop. Je vais en venir à celui-ci qui est extraordinairement célèbre, qui est appelé le pavage des bobines, parce que le motif de base ressemble un peu à une bobine de fil. Et, bon, au premier coup d'œil, on voit bien qu'il y a d'accord, ça va, il y a de la symétrie, là, donc on voit très bien des axes de symétrie. Puis, on se demande ce qu'il y a de plus. Alors, on ne voit pas très bien ce qu'il y a de plus, donc je vais vous aider un peu. Je l'ai passé en noir et blanc. J'ai décidé que toutes les couleurs, c'est du noir, et sinon le blanc, c'est du blanc. Bon, donc je vous ai tracé les deux axes de symétrie, on les voit très très bien, ils sont perpendiculaires. Si vous faites abstraction du noir et du blanc, et si vous ne pensez cet objet qu'en termes de motif, c'est-à-dire, vous imaginez, si vous voulez, que vous faites juste les contours, vous ne dessinez que les contours et vous laissez tomber tout le remplissage, hein. À ce moment-là, en ne parlant que des contours, cette chose blanche est la même que la chose noire d'à côté. À ce moment-là, vous allez avoir une rotation, et le centre de la rotation, c'est ce point-là, le point E, là, va permettre de faire par un joli petit quart de tour l'envoi de cette forme sur celle-ci. Et il y a ici une subtile combinaison entre des rotations du quart de tour et des symétries. C'est le pavage des bobines, il est un peu compliqué à analyser. Mais si vous rétablissez le noir et le blanc, il y en a moins. Parce que quand vous tournez d'un quart de tour autour du point E, votre rotation du quart de tour va emmener le blanc sur du noir, et c'est pas pareil. Et donc vous refusez votre rotation, il va vous rester... des rotations du demi-tour. Parce que vous, si vous faites un demi-tour autour du point E, ce morceau noir va aller sur l'autre. Donc vous avez moins de transformations de symétrie. Mais maintenant, si nous revenons aux couleurs, décidons que le jaune, le bleu et cette espèce de verdâtre ne sont pas identiques, eh bien là, vous découvrez que l'artisan qui a assemblé ces carreaux a détruit toutes les symétries. Parce que les petits morceaux jaunes sont là, là, puis je crois qu'il y en a en bas, mais on ne voit pas très bien. Ils sont un peu n'importe comment. Ça a été réparti au hasard, et finalement, il n'y a plus du tout de symétrie. Vous découvrez ainsi que la beauté de ces panneaux de céramique tenait au fait qu'ils sont à la fois réguliers et irréguliers. Et c'est ça qui, effectivement, plonge le visiteur dans la contemplation la plus profonde. Le plus beau, c'est celui-ci qui se trouve dans la salle des ambassadeurs. J'ai eu du mal à faire cette photo, mais je pense qu'elle tient pas mal. Ici, les motifs fonctionnent par une rotation du tiers de tour, pas de symétrie. Vous voyez, c'est légèrement incurvé pour empêcher la symétrie. Ça tourne. Si vous assimilez ça à du noir et blanc, oubliez comme on vient de le faire les couleurs, alors vous avez effectivement un assemblage de rotation et puis de translation, parce qu'on peut pousser, qui marche très bien. Si vous reprenez les couleurs, vous perdez les rotations, parce que la rotation du tiers de tour ne va pas fonctionner pour le bleu. Et à ce moment-là, il ne vous reste que des translations, c'est-à-dire le fait de tout décaler d'un grand coup à l'horizontale ou d'un grand coup en biais. C'est-à-dire que c'est un peu moins régulier que cela. Il vous reste à quitter le terrain des mathématiques et du design et à faire un peu de philosophie, de vous demander pourquoi ces panneaux de céramique étaient à la fois réguliers et irréguliers. Quel est le but poursuivi par cette esthétique? Mais là, c'est toute une époque, donc je vous renvoie au XVe siècle. Et le mieux à faire, c'est d'aller voir sur place. Enfin, je vais proposer une dernière situation où encore exactitude et inexactitude se combinent. C'est des histoires de perspectives. Alors, je ne vais pas vous parler des perspectives telles qu'inventées à la Renaissance, c'est-à-dire la perspective de l'appareil photo, celle de l'œil. Situations bien connues et qui ont été déjà abondamment commentées. Non, je vais vous parler de la perspective des meubles IKEA. Alors, vous déballez votre meuble et puis il y a un mode d'emploi, vous ne comprenez rien. Et pour arriver à comprendre un peu plus, on vous met une figuration du mode d'assemblage. Ça, c'est la perspective IKEA. Bon. Alors, pour que ça soit compréhensible, il faut que les ressemblances sautent aux yeux. Donc, il faut absolument qu'on comprenne que cette vis-là et celle-là, c'est la même, là-bas, c'est la même, et que le mouvement à faire pour assembler tout ça, c'est le même. Alors, le concepteur de ce mode d'emploi devait absolument montrer les quatre vis de la même façon, à la même position. Mais si vous prenez une photo de votre meuble en cours de montage, donc vous faites une perspective centrale, conique. Ah mais sur votre photo, les quatre vis n'auront pas la même taille, parce que certaines sont plus près et d'autres sont plus loin. Donc le mode d'emploi pour un alphabète doit, lui, montrer les quatre vis de la même taille. Et par conséquent, vous devez faire de la perspective parallèle. Alors, ce n'est pas la perspective des débiles, hein, pas du tout. C'est une autre perspective qui a des avantages et des inconvénients. Donc, je vous propose le design de la perspective parallèle. Alors, ça a été utilisé par des gens très bien et pas du tout des gros naïfs. Je vais vous proposer ici de jeter un coup d'œil sur une gravure de M. Androuet du Cerceau, célèbre graveur du XVIe siècle, si je ne me trompe pas. Et il a fait un livre sur les principaux châteaux du royaume de France. Et voilà, il fallait qu'il montre le château Gaillon. Alors, manque de chance, le château Gaillon, c'est grand. Alors, je reviens un coup en arrière. Donc là, voilà le plan. Je devrais vous faire plus grand. Enfin bon, je ne sais pas si mon logiciel permet de faire ça. Ça serait bien quand même. Hein. Bon. Ouais. Voilà. Voilà. Et donc, il y a le château, puis il y a le parc. Et il y a la cour entre le château et le parc. Et pour Androuet du Cerceau, il est important de tout montrer à la fois. Là, il y a même un petit labyrinthe qui est très sympa, un autre à côté. Et il veut aussi montrer que c'est construit sur un promontoire. Donc, si vous faites une perspective un peu classique, bah, les éléments devant vont être grands, et puis les trucs derrière vont être si petits qu'on ne va rien comprendre. Et donc, Androuet du Cerceau, ben, il a le même problème qu'IKEA. Il veut tout montrer. Et il veut montrer juste. Et il veut permettre de comprendre la taille des objets où qu'ils soient. Donc les quatre vis d'IKEA, elles sont là. Et une, et deux, et trois, et quatre. Voilà, donc le rapport de design entre IKEA et Androuet du Cerceau m'a rempli d'aise. Et je pense que ça, c'est une bonne démonstration pour montrer qu'il faut se méfier des conventions. Donc la convention de la perspective classique, la perspective de l'appareil photo, elle est peut-être bonne, mais elle n'est pas bonne à tout. Et en l'occurrence, la perspective parallèle marche très bien parce qu'on comprend très bien les personnages au milieu de la cour, on comprend très bien le jardin, on comprend tout. Ça marche aussi pour le jeu vidéo. Un jeu vidéo, c'est très bien pour comprendre des tas de choses de maths, parce que ça bouge, il y a des couleurs, voilà, c'est varié. Je vous ai dit que ce n'était pas sérieux, mon exposé. Hein. Donc, voilà. Et donc ça, c'est un jeu vidéo qui s'appelle 0AD, c'est-à-dire c'est année zéro. Et alors, on a des petits personnages qui doivent se balader. Voilà, donc là, vous avez tous vos petits personnages. Et puis là, il y a un damier. Et alors, dans un jeu vidéo, il faut pouvoir balader les personnages efficacement, rapidement. Mais si vous voulez que vos personnages se baladent vite fait, eh ben, le plus simple, c'est que le sprite du personnage puisse être effacé d'ici, puis redessiné là-bas sans peine. Mais voyons, si vous prenez une perspective classique, si vous prenez la perspective de l'appareil photo, ça va être horrible. Vos personnages, il va falloir les rétrécir quand ils s'en vont. C'est des calculs épouvantables. C'est justement les calculs que les Grecs ne savaient pas faire. C'est des avalanches de multiplication et de division. Vous avez intérêt à avoir des machines avec des processeurs assez rapides pour ça. Alors, depuis quelques années, on a ça. Donc, les jeux vidéo d'aujourd'hui refonctionnent en perspective centrale pour donner voilà, une impression parfaite. Mais si vous voulez faire un jeu vidéo sympa, un peu nerveux, un peu commode, et sur lequel vous savez très bien où vous êtes, vous savez compter les cases, et bien la perspective parallèle, c'est impeccable et notre œil accepte. Notre œil accepte ça parce qu'on a un point de vue assez rapproché. Donc ça ne saute pas aux yeux que c'est une perspective parallèle. Bon, si on réfléchit un peu, d'accord, on le comprend, mais ça passe très bien. Tant et si bien que les Japonais se sont dit « Mais c'est très bien comme perspective, pourquoi chercher autre chose ?» Donc là, je vous montre une estampe de Harunobu et qui montre un espace intérieur, une cérémonie du thé. Voilà, c'est paisible, c'est équilibré. Vous voyez tout ce qu'il faut voir. Alors, comme Harunobu est un très grand, il est juste à l'époque où on est en train de changer de perspective. Harunobu, en fait, est à l'époque, je crois que c'est du 18e, 19e, où on sait qu'il y a une autre perspective parce que les marchands hollandais ont apporté des œuvres et donc ils voient qu'on peut montrer les choses autrement. Mais il aime bien sa tradition, il la fait vivre. Et ici, on a en apparence une perspective parallèle. Alors, je vous ai promis de parler d'exactitude et d'inexactitude, n'est-ce pas ? Donc, la perspective parallèle n'est pas plus exacte que l'autre. elle est différente. Mais surtout, ce qui distingue le bon artiste du technicien, ce qui fait le bon designer, c'est que précisément, ils ne se sont pas obligés de faire tout juste. Donc, vous prenez un logiciel de géométrie et vous commencez à tracer des droites. Je l'ai fait. Voilà. Donc vous tracez des droites, c'est tout facile sur cette figure-là, parce que là, il y a une étagère, donc je trace la droite verticale. Avec l'étagère, je trace. Hein. Bon, c'est pas tout à fait du 120 degrés, mais pas loin. Voilà. Alors, ça vient, c'est bien, mais quand on arrive sur le poteau, là, donc on trace les droites, et puis là, il y a des équations de droite, et on s'aperçoit que c'est pas parallèle. Alors ça, c'est très intriguant, parce que ça signifie que... si cette étagère tient debout, bah c'est vertical. Bah le poteau, lui, alors, il n'est pas vertical du tout. Et puis, alors, vous regardez de plus près, vous voyez qu'en fait, vos parallèles ne sont pas parallèles. Donc, il a triché. Alors, Kounobu s'est dit, bon, cette perspective parallèle, c'est sympa, mais ça a un côté un peu mécanique. Et pour faire vivre la scène, eh ben, je vais faire un peu de décalage. Et donc, il triche. Et il défait les parallèles, de sorte que le poteau, il a l'air de bouger un peu, et son côté non parallèle le fait ressembler à l'arbre qui est derrière. Donc la scène s'anime. Donc globalement, c'est plutôt de la perspective parallèle, mais pas tellement. Vous trouvez ça aussi dans l'art coréen. Donc l'art coréen a découvert la perspective assez tardivement, ça s'appelle des shaek-kori. Et donc, globalement, ça a l'air d'être de la perspective, comme l'appareil photo, de la perspective centrale, mais en fait, pas vraiment. Là encore, si vous regardez par ici, vous voyez que ça ne colle pas tellement. En fait, c'est des petits morceaux de perspective parallèle avec des lignes de fuite incohérentes. Le suivant le montre beaucoup mieux, malheureusement, il est un peu petit. Là, vous regardez la table basse, espèce de table basse ici. Regardez bien. Vous voyez que ce n'est pas du tout de la perspective d'appareil photo. C'est des morceaux de perspective parallèle qui ont été collés les uns sur les autres. Et avec une raison, c'est que la perspective parallèle, comme le meuble Ikea, elle permet de montrer beaucoup, de montrer les tailles, les positions des objets. Puis tant pis pour le point de vue global. Ça permet aussi de faire des facéties. Ça, c'est une gravure du graveur hollandais Escher. Qui s'est dit qu'on pouvait bien faire des un petit peu des cercles vicieux, voilà, de l'eau qui monte et qui descend. Et la perspective parallèle, c'est génial pour ça, ça marche impeccable. Donc quand vous regardez différents détails, je vais essayer de vous la zoomer, tiens. Vous regardez les détails. Il n'y a aucun problème. Hein. Bon, d'accord, l'eau qui coule là va pas trop bien, mais enfin bon, globalement, c'est quand même assez raisonnable. Hein. Sauf que globalement, il y a quelque chose qui ne tourne pas très rond. Et toute la finesse d'Escher a été effectivement de détourner les règles de la perspective parallèle pour créer cet objet très bizarre. Donc là, on est dans du design d'objets impossible. Pourquoi pas ? Je vais terminer avec le mathématicien piégé à sa propre création. Donc là, ça va un peu vous donner le tournis. La forme qui est représentée ici, c'est le logo de l'association des profs de maths des États-Unis. Donc la PMEP a son homologue aux États-Unis, ça s'appelle la MAA. Une très noble association, dont le logo est un icosaèdre. C'est donc un joli solide à 20 icosas, ça veut dire 20 faces. Et donc ce logo, c'était leur fierté pendant assez longtemps, jusqu'au jour où quelqu'un s'est dit, mais au fait, c'est une perspective, ça n'est-ce pas ? Donc le découvreur s'appelle M. Branko Grünbaum, et il a écrit un article en disant, dites voir, la perspective du logo, elle ne va pas bien. Regardez donc à droite. Alors, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Et il a repiqué l'icosaèdre logo. Et puis, il a commencé à tracer des droites parce que dans l'icosaèdre, il y a des sommets qui se joignent. Il s'est dit, bon, si c'est une perspective à peu près honnête, quand il y a des parallèles dans la perspective, ça doit faire ou bien des parallèles ou bien des droites qui se rencontrent. La manque de chance, là, on a deux droites à peu près parallèles et deux qui ont l'air de vouloir se rencontrer. Car dans l'icosaèdre, il y a beaucoup de parallèles. Et finalement, cette noble association de profs de maths avait pour logo un objet impossible. Alors ça a créé un grand trouble, si bien qu'ils ont essayé de le corriger, mais l'imprimeur n'était pas tellement d'accord, parce que le logo de remplacement, qui lui respectait la perspective, il était assez moche, il n'était pas très bien assuré, si bien que l'ancien logo a refait surface pendant quelques années. Il aura fallu à peu près 15 ans pour s'en débarrasser. Aujourd'hui, il ressemble à ça. Il est bien assuré, c'est une bonne perspective, mais je ne vous dirai pas laquelle. En conclusion, les mathématiques, si vous voulez, ça existe autour de nous. Ça peut servir à fabriquer des objets, ça peut servir à fabriquer du design. On peut aussi ne pas s'en servir et juste les regarder parce que c'est joli à voir. Et mon point de vue, c'est que vous avez des mathématiques à considérer, à regarder, qui participent parfois à l'ordre du monde, parfois à la création. Quelquefois, les mathématiques interviennent sans nous demander notre avis. Elles peuvent être là juste dignes de notre contemplation, mais elles peuvent aussi servir, et à haute dose, dans des processus de création. Je vais terminer en vous lisant un texte qui ne parle pas de mathématiques, qui me semble tout à fait approprié pour expliquer ce que j'ai essayé de vous vendre. Donc, je vais vous le lire parce que sur l'écran, ce n'est pas très drôle. Ce texte est dû à M. Oleg Grabar, qui est décédé à peu près au moment où nous étions en train d'écrire le programme d'enseignement pour la série STD2A, c'est un texte sur l'ornement. Selon une première définition qui remonte à la Renaissance, et toujours opératoire, l'ornement est un ensemble de techniques et de motifs, souvent regroupés en listes et associés avec les arts industriels ou bien recouvrant des surfaces architecturales. Comme le suggérait Alberti, l'ornement est quelque chose que l'on ajoute à un mur déjà construit ou à un objet qui peut remplir sa fonction sans cet ajout. Ces motifs n'ont en général pas de sens, iconographique ou autre, en dehors de l'objet ou de la surface sur lesquelles ils se trouvent. Et la technique de leur création incite à une répétition plus ou moins infinie. À l'inverse du grand art figuratif de la représentation, l'ornement n'est jamais unique et peut toujours être copié. Dans tous ces cas, les motifs cessent d'être considérés comme des ornements dès qu'on leur attribue un sens iconographique ou symbolique. Selon cette lecture, l'ornement fait partie d'une sorte de purgatoire dont il peut être sauvé par des significations sociales ou intellectuelles, voire par des valeurs esthétiques exceptionnelles. Mais il n'entre pas par lui-même dans le monde rédempteur des œuvres d'art. Un deuxième sens du mot ornement est moins clair mais plus intéressant. La spécificité des motifs et des techniques n'y joue qu'un rôle secondaire. L'essentiel est l'effet produit. Car il s'agit de la reconnaissance de la qualité de ce qu'on voit et de ce qu'on regarde, mais aussi et surtout du plaisir qu'offrent au sens les compositions, couleurs, proportions, expressions et autres catégories des œuvres d'art. Des œuvres complexes comme les peintures de Michel-Ange ou simples comme celles de Rothko. Les historiens de l'art ont en général évité de parler des plaisirs de l'art, un domaine réservé aux critiques et aux amateurs. En ce qui concerne l'ornement, dans cette seconde acception, il se définit justement par le sentiment de plaisir que l'on ressent en le regardant. Ce qui nous manque, c'est une manière d'expliquer le plaisir, d'en démonter les ressorts dans la pensée, dans la perception des choses, et de savoir le transmettre aux autres en paroles et en sentiments. Et pourtant, c'est bien en méditant sur l'ornement dans ce sens que nous pourrons éventuellement comprendre les sentiments et les attitudes qui affectent notre compréhension des arts de manière générale et que nous cachons si habilement dans la recherche stylistique ou iconographique. À ce niveau, l'ornement n'est plus une chose, mais une émotion, une passion, une idée, qui affecte tout ce qui est créé par les artistes et les artisans. C'est une propriété de l'œuvre d'art qui transforme celui qui la regarde. Il n'y a pas un mot de mathématiques là-dedans, mais je pense que ça les concerne quand même. Je vous remercie. Voilà, je répondrai à vos questions si vous en avez quelques-unes, bien entendu. Être intimidé. Hein. Soit vous souhaitez revoir ou si vous souhaitez critiquer, voilà, n'hésitez pas. Le plus dur, c'est la première question. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. C'était un exposé extrêmement subjectif, qui n'ont aucune prétention ni à la généralité, ni à l'expertise.
Oui, moi, je voulais poser une question. Si j'étais mathématicien, ça se saurait dans cette salle. Mais finalement, il y a 3 semaines, il y avait un prof du Collège de France, Michel Brunet, qui a fait un colloque sur une journée avec des généticiens sur la rencontre improbable entre Néandertal et l'homme moderne. L'introduction et la conclusion de la journée, c'est que plus on avance, moins on en sait. Alors si j'écoute votre exposé, c'est un petit peu différent. Vous dites d'une certaine manière juste, mais pas trop. C'est-à-dire que quand on entre dans la subjectivité, il y a un certain nombre de règles qui apparaissent posées. Et en fait, on se rend compte que la notion de justesse, là on parle de regard, je repense à l'estampe japonaise, finalement elle se décale parce que la justesse du mathématicien n'est pas forcément celle de l'artiste qui est en train de, comment dire, de préfigurer un regard extérieur qui n'est pas le regard d'un artiste. Alors la question que je voulais vous poser, elle a 2 titres. D'un point de vue épistémologique, est-ce que vous pensez que les sciences mathématiques sont en train de se poser des questions sur la place du doute dans ces différentes avancées? Et du point de vue pédagogique, où est-ce que vous mettez le doute dans l'enseignement des mathématiques? Et est-ce que ces notions de doute sont à mettre entre toutes les mains?
C'est long et difficile. Hein. Bon, on va essayer de répondre avec des images, parce que vous avez compris que j'ai une pensée assez visuelle. Hein. Juste, mais pas trop, je crois que celui-là est vraiment très approprié, pas vrai? Pour répondre, ça convient, ça, hein? Juste, mais pas trop. Le juste, mais pas trop, c'est pas le souci du mathématicien qui va effectivement chercher à élaborer des rapports, des relations, des outils qui, eux, seront essentiellement justes. Mais ce qui se défie de l'exactitude, c'est le processus de création. Et effectivement, il y a une différence entre le processus de création et les mathématiques. La science donne les outils, donne les concepts et permet d'aller plus loin. Mais la création, c'est quand même quelque chose de plus. Il y a dans cette ambiance graphique quelque chose de plus que la propre perspective. Et ce quelque chose de plus, c'est précisément le génie de l'artiste qui va introduire ce subtil décalage, comme l'histoire du passage de roue de la New Beetle, va utiliser tous les outils que nous lui fournissons et apporter ce supplément d'âme qui lui est propre et qui n'appartient pas aux mathématiciens. Et c'est cette tension que j'estime la plus féconde. De ce point de vue, les mathématiques progressent apportant de nouveaux concepts, de nouvelles idées, ce qui est vraiment très typique des sciences dures. Tout au contraire, on a évoqué Michel Brunet, la c'est un groupe que je connais bien, la paléoanthropologie, est une science redoutable parce que tous les 15 ans, elle efface tout. Régulièrement, on fait table rase et on décide que tout est à refaire. Mais vous imaginez comment ça serait si en maths, tous les 100 ans, on effaçait tout. Mais ça serait abominable. Ça nous est arrivé une fois. À la fin du 19e siècle, tout d'un coup, on s'est mis à effacer la géométrie euclidienne. On a décidé que ça ne valait pas grand-chose et on est parti dans une autre direction. Ça a entraîné une crise des fondements qui a duré à peu près 30 ans, à partir de laquelle on s'est à peu près reconstitué, mais ça a été un moment difficile à passer. Donc ce n'est pas vraiment dans le sens des mathématiques de passer par ces étapes d'effacement systématique et de recréation. Je pense qu'effectivement c'est fécond, mais c'est assez angoissant. Et donc le désir de recréation, le refus, le doute, la critique font davantage partie de l'univers qui gravite autour de la création des mathématiques, de la discussion philosophique, de l'esthétique. Et comme je l'ai évoqué, l'esthétique, ça n'est pas l'outil de la création lui-même, c'est ce qui vient en plus. Le doute sur les créations, l'interrogation sur ces créations, c'est en rapport avec ce processus créatif lui-même. Que le processus créatif se mette à utiliser une technique plutôt qu'une autre, de ça on peut discuter, mais la technique elle-même ne doute pas. Voilà. Alors on a des choix, de temps en temps on va refuser un certain nombre de techniques. J'ai essayé de montrer que le refus de la perspective est un acte fécond et qui vraiment nous emmène loin. J'espère que vous avez deviné que en ne montrant aucune perspective classique, c'était de ma part intentionnel. Je vous ai montré où mène le refus de la perspective. Ça ne veut pas dire que la perspective elle-même soit fausse ou doive être remplacée, mais en l'éjectant de l'univers créatif, on ouvre la place à d'autres créations. Et donc ce qui me semble le plus fécond, c'est justement cette tension entre le geste créateur et le choix de toutes les techniques qui s'offrent à nous et qui sont de plus en plus nombreuses. Voilà.
Merci, oui.
Bon, s'il y a d'autres interrogations, doutes, ou vous voulez revoir autre chose. Bon, je vois que vous êtes plongé dans je vous ai plongé dans une grande sidération. Si je peux vous inviter à voyager, je pense qu'effectivement, la visite de l'Alhambra de Grenade est un endroit extrêmement suggestif. Parce qu'effectivement, on voit vite la différence entre la démarche créative, la technique sous-jacente et l'intention cachée. Et le plus difficile, c'est l'intention cachée. Et c'est l'un des endroits où on voit le mieux cet assemblage qu'autrement on perçoit un peu moins bien. Mais sinon, mes autres supports le suggèrent. Mais bon, celui-là est pas mal non plus. Vous voulez en voir un autre ? Allez, faites un choix. Dites-moi quelle est l'œuvre que j'ai montrée que vous souhaiteriez absolument revoir avant qu'on passe à autre chose. Allez, passez commande. Alors, vous voulez l'Alhambra ? Oui, mais lequel ? Ça, c'est vraiment fascinant. Hein. Et il est très étonnant parce qu'ici, en fait, il y a Ce qui, dans cette œuvre, suscite la fascination, voire le trouble, c'est que c'est à quasiment trois œuvres à la fois. Si vous ne la voyez que en monochrome, vous avez effectivement un aspect rotatif qui va se mettre en place et qui va vous inviter à tourner la tête. Hein. Je n'ai pas eu le temps de passer mon image en niveau de gris. Ça ne suffit pas de la passer en niveau de gris. Il faut également rééquilibrer les teintes. Parce que quand vous passez en niveau de gris, le jaune devient un gris léger, tandis que le vert devient un gris très soutenu. Donc au niveau du traitement d'image, c'est un peu compliqué. Il faut sélectionner les couleurs. Il faut faire un mapping des couleurs pour arriver sur un gris moyen. Enfin, il y a un peu de travail, je n'ai pas le temps de le faire. Bon, c'est faisable, mais c'est pas mal de boulot. Mais c'est intéressant au plan de technique de design. Hein. Si vous imaginez un peu ce support en bicolore, hein, blanc-noir, à ce moment-là, il est vraiment une invitation à partir dans les mouvements de rotation. Tel qu'il est là, si vous fixez sur le bleu, vous avez cette vision de la diagonale qui donne une dynamique très différente et qui en fait va structurer la pièce avoisinante. Alors le panneau n'est pas très grand, donc dans la même pièce il y a d'autres panneaux décoratifs ayant d'autres motifs, mais quand on se met suffisamment près, c'est cette diagonale bleue qui s'impose. Et donc là c'est vraiment tout à fait autre chose. Et enfin, il y a cette succession donc bleu, jaune, vert, noir, et qui recommence, qui va créer de la diversité. Et donc la contemplation peut tour à tour s'attacher à ces différents motifs, ces différentes visions qui se superposent. Et finalement, je pense que là on est dans ce que le philosophe Derrida appelle les stratégies de la déconstruction. Vous commencez par construire cette œuvre et vous la construisez avec la petite forme de base qui est basée sur un triangle équilatéral. Et là, vous avez la rotation. Mais le triangle équilatéral, lui, il aurait de la symétrie. Et vous allez enlever la symétrie du triangle équilatéral avec ses bords incurvés. Et donc, on commence à déconstruire le triangle. Après, vous agencez tout par translation. Et vous avez ce grand univers qui a l'air de vouloir tourner. Et vous allez déconstruire la rotation en mettant la couleur. Mais au lieu de déconstruire complètement, voilà, comme celui-ci, où les couleurs ont anéanti tout déplacement spatial, eh bien, vous faites une déconstruction limitée et vous laissez quand même le déplacement le long de la diagonale. Et donc c'est ce jeu extraordinaire de la construction, de la déconstruction qui crée une œuvre que je trouve totalement extraordinaire. Et finalement, c'est ça aussi, je pense, la tension féconde entre l'immense variété des techniques et l'œuvre d'art, c'est que les techniques permettent de construire, mais à un moment donné, il faut un petit peu détruire. Et là, les mathématiques permettent de faire les deux. Mais bon, vous avez compris comment ce panneau était fait. Il reste cette interrogation philosophique. Pourquoi avoir fait à cet endroit-là une œuvre aussi incroyable ? Et l'Alhambra a été construite extrêmement tardivement. C'est un art islamique super tardif. C'est le 15e siècle. Enfin, c'est le 14e et 15e. Au moment où on produit quasiment plus rien à côté. Donc c'est une sorte de champ du cygne qui va à l'extrême de l'abstraction. C'est normal, l'art islamique est toujours décoratif et abstrait. Et l'extrême de l'abstraction essaye d'avoir quelque chose à montrer parce qu'il ne peut pas montrer. On ne peut pas montrer de formes humaines, formes zoomorphes, donc on va montrer de la géométrie. Et cette géométrie qu'on montre doit néanmoins attirer le regard et pousser à la contemplation, sans doute pour des raisons mystiques. D'où cette idée de mettre trois œuvres en une. Alors voilà ce que j'essaye de vous vendre, c'est une œuvre d'art qui est triple. Voilà. Donc bien entendu, on peut en trouver d'autres, mais celle-là me semble suffisamment exceptionnelle pour qu'on la garde. Voilà, si vous avez d'autres questions, je répondrai volontiers, bien entendu. Oui. Il faut prendre un micro parce que... C'est...
Bonsoir. Lorsqu'on veut travailler donc, sur l'art et les mathématiques avec les élèves, une question que je me pose, c'est comment faire pour être, on va dire, quand même raisonnablement pertinent. Et c'est difficile, autant comme vous avez cité la perspective artistique, on sait que les artistes de la Renaissance ont utilisé les mathématiques pour construire la géométrie et donc cette perspective de l'appareil photographique quand il sera créé, mais c'était déjà ce que rétrospectivement on peut appeler la perspective donc, de l'œil de l'appareil photographique. Dans d'autres cas, lorsque on a des œuvres dans lesquelles on peut penser voir des mathématiques, une difficulté, c'est de savoir à quel point on les voit ensuite, alors qu'elles n'y étaient pas, elles n'y étaient pas avant. Donc du coup, on peut toujours faire des interprétations, et du coup, le champ est infini et plaisant. Mais c'est toujours une frontière entre essayer de dire, voilà, là, il y a des mathématiques, elles sont là, elles ont en quelque sorte une utilité, et puis à d'autres moments, ben, non, c'est simplement une interprétation qu'on peut avoir, on peut voir des formes, elles peuvent aider à voir des formes.
Oui, je pense que sur le plan, on va parler un peu pédagogie, parce que c'est quand même mon métier. Sur le plan pédagogique, les deux mouvements sont intéressants. On a écrit des documents de ressources pédagogiques pour les premières STD2A, et on a essayé de montrer qu'on avait les deux mouvements qui pouvaient se combiner. Il y a un mouvement... lié à la création, où on a un processus créatif qui, à un moment donné, va utiliser des concepts mathématiques. On va essentiellement essayer d'agencer des formes dans l'espace avec un but, avec des contraintes. Et donc là, on est sur un processus créatif qui, à un instant, va passer par une phase où les mathématiques vont s'exprimer, vont produire des résultats avant de finir. Et ça, c'est très typique de la perspective. La production d'une œuvre perspective nous fait passer par le temps de la géométrie avant de s'en défaire, de colorier, par exemple. La perspective ensuite va être mise en couleur. La mise en couleur, c'est plus de la perspective. On a un autre mouvement pédagogique qui est celui qui est plus contemplatif. Et ça, c'est un mouvement où on part de l'œuvre pour essayer de comprendre de quoi elle est faite, comment elle a été réalisée. C'est un temps d'observation, d'analyse, dans lequel les mathématiques vont apparaître, souvent sans prévenir. Elles sont là, peut-être qu'elles ont été utilisées consciemment, peut-être pas. Et la seule chose à faire, c'est de reconnaître qu'il y a les mathématiques sont là, sont dans la nature autour de nous. On ne sait pas pourquoi, mais ça ne doit pas nous dissuader de les regarder. Et les élèves qui sont dans des études orientées vers le design connaissent bien ces deux moments, le temps de l'observation, de l'analyse de l'œuvre et le temps de la création. En fait, on est souvent dans un aller-retour entre les deux positions. On ne peut pas créer si on n'a pas appris à observer. Il faut d'abord beaucoup observer. Et à force d'observer, on comprend comment l'œuvre est faite, ce que j'ai un peu essayé de vous faire ce soir. Et cependant, si on ne fait qu'observer, on ne crée rien. Il faut aussi se confronter au processus de création qui lui-même oblige à découvrir toutes les contraintes. Le designer du New Beetle, il avait énormément de contraintes à gérer, donc il n'avait pas une totale liberté. Et donc, je pense que les élèves apprennent à créer en étant tour à tour dans les deux positions, essayer de créer malgré tout ce qu'on impose comme contrainte avec les matériaux, le coût, le temps, et découvrir les œuvres faites par d'autres, souvent très complexes, pour voir de quoi elles sont faites. Et pour des raisons pédagogiques, vous savez qu'il faut régulièrement simplifier. Donner aux élèves des situations trop complexes, c'est les condamner à être dominés, ne pas pouvoir prendre le dessus. Et donc, il faut peut-être se limiter à des objets relativement simples pour que les élèves puissent en venir à bout. Que ça soit dans un processus créatif ou dans un processus d'analyse. Par exemple, le toit du Centre Pompidou de Metz est un objet tellement complexe qu'il est beau à voir, mais il n'est pas très utilisable au plan pédagogique. On s'est interrogé avec des collègues d'art appliqué. On s'est demandé si c'est ce qu'on pouvait en faire, parce que c'est très attrayant. Manque de chance, pas facile d'en faire quelque chose, parce que la création est très technique, elle repose sur des processus sophistiqués. Elle ne conduit pas à un discours facile. Et donc, on n'est que dans le contemplatif. Et le contemplatif pur écrase l'élève. C'est pour ça que du point de vue de l'élève, je pense qu'il faut oser se limiter à des objets assez simples. Il faut oser rester sur des formes de base, des créations peut-être un peu anciennes, et progressivement ainsi éduquer le regard pour aborder la complexité ensuite. Hein. Trop de complexité est, à mon sens, un blocage pédagogique. Et donc, dans les situations que je vous ai présentées, certaines commencent à être trop complexes. Le fer forgé, en fait, est assez compliqué. Si on veut analyser le fer forgé, il faut commencer à parler de raccordement, de courbes, de degrés 3 et plus. Et ça peut s'étudier en classe terminale, mais on est vraiment à la limite supérieure. Hein. De même, la perspective devient vite assez difficile, très experte. C'est une autre raison que j'avais de me limiter à la perspective parallèle. Hein. Si bien que si j'ai un conseil à donner aux professeurs, c'est d'oser la simplicité. Il y a vraiment des très grands avantages pédagogiques. Les élèves vont très vite pour ajouter de la complication et il faut calmer tout ça. On peut créer des objets merveilleux avec des briques de base très simples. Hein. Voilà, donc on peut montrer la place des mathématiques de façon toute simple avec toutes les créations des Grecs. Hein. Il y a largement de quoi faire. Hein. Donc allez-y doucement. Ne partez pas dans la surenchère avec de l'expertise, avec des objets ultra sophistiqués. Vous aurez perdu tout le monde en route. Et quand vous voyez qu'on peut montrer des objets très anciens en lien avec, en résonance avec des objets modernes, ben vous avez mon intention aussi, c'est de ne pas craindre de faire voir le design dans les objets anciens, qui sont souvent un peu plus simples. Et inversement, les objets très complexes, j'ai montré pour ça, la banquette de Guimard, sont intéressants, mais vous ne pourrez pas faire des mathématiques avec. En tout cas, pas au niveau lycée. Voilà, donc, si je peux inspirer le travail dans les classes, eh ben, je pense que ça sera avec ces quelques concepts élémentaires qui cherchent à titiller le regard et puis se servir de ce qu'il y a autour de nous. Ensuite, bah, l'enseignant peut regarder dans l'architecture des bâtiments qui nous environnent, les objets qu'on trouve sur les rayonnages des supermarchés. Voilà, il y a du design partout. Et donc, tout objet de design est susceptible d'inspirer des démarches pédagogiques. Donc, allez-y. Voilà, c'est peut-être le mot de la fin. Je ne sais pas quel est mon credo, mais... Je vous laisse conclure.
Cause. Écoutez, si vous n'avez plus rien à ajouter, nous remercions Robert Cabanne pour cette conférence érudite et intéressante et qui montre aussi une image des mathématiques effectivement un petit peu décalée. Et, merci beaucoup. Merci de votre présence et à bientôt. Merci Didier.